En décembre 2020, suite au décès tragique de Morgan Keane tué sous les balles d'un chasseur le 2 décembre, avait lieu à Cajar une marche blanche qui rassemblait ses amis, proches, voisins du village, mais également d'autres personnes pour qui la cohabitation avec les chasseurs est parfois problématique. Nous allons en entendre un extrait, puis l'interview de Zoé, membre du collectif Un jour un chasseur, qui a été créé suite au décès de leur ami. Le 7 décembre 2021, elles seront reçues à Paris, au Sénat, pour démarrer un travail avec une commission pour envisager une réforme de la chasse.
Je vais faire bref parce que même si on avait toute la journée, je ne pourrais pas dire toutes les choses qu'on ressent. Et on est chez Morgan, chez Mogi. On t'aimait, Nogi. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été si courageux. Toujours le sommeil. Merci d'avoir vendu du rêve. Jour après jour après jour. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne t'oubliera jamais. Tu vivras toujours dans nos cœurs. Voilà, je crois que j'en ai assez dit. Il y a un pot commun pour participer aux obsèques. C'est Niki, juste ici, qui s'en charge. Libre à vous de participer. On vous remercie et merci d'être venu.
Bonjour Zoé, vous êtes une des amies de Morgan Keane et vous êtes entre autres à l'initiative du collectif Un jour un chasseur et de la pétition adressée au Sénat contre les morts, violences et abus liés à la chasse qui a atteint les 122 484 signatures en moins de 3 mois et qui a donc été transmise à la conférence des présidents. Celle-ci a décidé le 23 novembre de créer une mission conjointe entre la commission des affaires économiques et la commission des lois de contrôle qui aura pour vocation, je cite, « d'entendre toutes les parties prenantes afin de déboucher sur des propositions concrètes, éventuellement de portée législative. » Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter les 5 mesures que vous défendez dans cette pétition, s'il vous plaît ?
Oui, alors on défend nos 5 principales mesures que l'on peut retrouver dans notre pétition. C'est tout d'abord les dimanches et mercredis sans chasse, une formation plus stricte du permis de chasse, des contrôles et suivi des armes à feu, et notamment aussi des sanctions pénales à la hauteur des délits commis, et enfin une reconnaissance des victimes de la chasse par l'État, en tant que victimes, par exemple, comme les victimes des attentats terroristes, etc., que ce soit reconnu et qu'elles aient une aide juridique et une aide psychologique.
Parce qu'aujourd'hui, quelle est la situation en France par rapport, par exemple, à l'obtention du permis de chasse ?
Alors déjà, tout simplement, il a été réduit de 200 euros, donc plus facile d'accès. Ensuite, la chasse est considérée comme un loisir et un sport. Du coup, on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas de certificat médical à avoir chaque année, comme les autres loisirs, les autres sports. Donc ça, il n'y a pas du tout d'examens médicaux. Par exemple, un chasseur qui a 80 ans aujourd'hui, qui a obtenu son permis de chasse à l'âge de 20 ans ou 30 ans, il a toujours le droit de chasser, alors qu'il n'a pas du tout les mêmes motricité, etc. Et on ne trouve pas ça normal qu'il n'y ait pas de suivi médical et psychologique de ce côté-là.
Et vous dénoncez également le fait que la détention d'armes à feu par des particuliers et la non-traçabilité de ces armes.
Oui, effectivement, parce qu'on s'est rendu compte que quand un chasseur décède, son arme est léguée, parfois à des gens qui n'ont pas de permis de chasse. On se demande combien il y a d'armes qui sont dans ce cas-là. Effectivement aussi, on s'est rendu compte que la plupart des féminicides sont causés par des fusils de chasse. Et du coup, on aimerait qu'il y ait le fichier, donc ça s'appelle Agrippa Ophiniada, qui soit mis à jour. C'est un fichier qui est connu par les ministères du gouvernement, mais qui n'est pas mis à jour. Et c'est censé tracer justement les personnes en possession d'armes et les fichiers par rapport à leur état psychologique, à leur passé, à leur casier judiciaire.
Et puis vous demandez également des sanctions pénales à la hauteur des délits commis. Vous pouvez nous en dire plus ?
C'était un peu dans ce cadre-là aussi, et le fait que, par exemple, il y a eu plusieurs cas où un chasseur a tué, il y a eu mort d'homme, il a tué quelqu'un d'autre, et il a eu que du sursis et une très faible amende. Alors qu'il y a quand même la mort d'une personne, on s'est rendu compte que les accidents sur la route, les conducteurs ont des peines plus lourdes, sauf qu'entre une voiture et un fusil, c'est pas du tout la même utilité. La voiture, vous la prenez pour aller au travail, pour aller chercher vos enfants, pour aller faire les courses, alors que le fusil, c'est littéralement pour tuer des animaux. Donc, c'est pas normal que les peines soient aussi faibles. Ça montre pas un exemple.
Dans les derniers drames qui ont eu lieu, on a encore eu ça, c'est-à-dire des peines beaucoup plus faibles ?
Oui, à chaque fois, c'est du sursis ou alors un retrait de permis pendant quelques années, mais après, le chasseur le retrouve 5 ans après. Donc, pour nous, c'est pas assez exemplaire, c'est pas à la hauteur de la mort de quelqu'un, parce que c'est la mort d'homme, mais c'est aussi des victimes psychologiques, qui, psychologiquement parlant, c'est très dur. Je parle notamment des proches des personnes mortes. Donc, c'est pas du tout à la hauteur des drames.
Dans le contexte actuel, donc en préélectoral, les récents drames qui ont eu lieu, qu'attendez-vous de cette commission? Et si vous pouvez nous donner les premières dates, puisque là, vous allez commencer ce travail avec la commission des lois.
C'est ça, et des affaires économiques. On attend tout simplement qu'ils soient assez compréhensif que pour nous, ces mesures-là, elles sont limite logiques en fait par rapport à ce qui se passe. Donc, on trouve qu'on ne demande pas énormément, enfin, c'est tout simplement de la pure logique pour éviter qu'un accident comme celui de Morgane ou celui de Joël Viard il y a quelques semaines se reproduise tout simplement. Donc on espère qu'ils vont être compréhensifs, qu'ils vont être assez ouverts et qu'ils vont mettre en place tout simplement les mesures qu'on demande et pas des mesures moindres.
À noter que le Sénat s'est emparé de votre pétition avant même la clôture. C'est-à-dire qu'il y a eu une précipitation et l'envie, entre guillemets, de traiter de cette question-là. Ça vous a surpris, ça ?
Oui, on pensait atteindre les 100 000 signatures, mais pas en 2 mois et demi, enfin 2 mois. Parce qu'on pensait les avoir en 5 mois ou 6 mois, donc c'est 6 mois requis. Hein, voilà, exactement. Et au final, on a eu plus de 120 000 signatures en 2 mois et demi. Donc, ça montre clairement une volonté des citoyens de partager tous ces problèmes-là, en fait.
Et une vraie prise de conscience, au moins au niveau des citoyens. Vous avez été aidé dans le relais de cette pétition. Peut-être on peut citer quelques...
Oui, bien sûr. Mais il y a eu très principalement Hugo Clément qui nous a pas mal relayé sur ses réseaux. Il y a eu aussi des collectifs, enfin des associations comme L214, One Voice, Fondation Brigitte Bardot, Pierre Rigaud aussi, qui nous a pas mal relayé, et des députés aussi comme Julien Bayou. Je ne vais pas arriver à tous les citer, mais heureusement qu'il y a eu des relais comme ça. Ça fait chaud au cœur parce que ça montre que des gens comme ça sont d'accord avec nous, et autant que ce soit des journalistes comme Hugo Clément que des députés ou des élus politiques. Et ça montre aussi une grosse vague de mobilisation et que c'est tout simplement des mesures très 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 légitimes qu'on demande.
Alors oui, parce que vous êtes bien dans une idée de réforme de la chasse et de réflexion, de se mettre autour de la table pour cette idée de partager la nature. On a l'impression que malgré les drames successifs depuis de nombreuses années, que ces questions-là ne sont pas abordées. C'est-à-dire que remettre en question la chasse aujourd'hui, ça ne faisait pas du tout consensus. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'il y a quelque chose qui mobilise autour de ces questions.
Je pense que c'est le fait que ce qu'on a fait, c'est-à-dire de relayer des témoignages de manière anonyme, donc ça c'est pas la première fois, mais sur ce thème-là, ça n'a pas été fait avant. Peut-être l'ASPAS le faisait, mais c'était sur leur site internet, alors que là sur les réseaux sociaux, de plus en plus de monde sont sur les réseaux sociaux, et du coup ça a pris une ampleur considérable effectivement par rapport à ça, et ça fait que les gens ont moins peur peut-être de parler de ce genre de choses parce qu'ils voient effectivement qu'ils sont pas dans, ils sont pas tout seuls dans le même cas en fait quand ils ont des problèmes avec les chasseurs.
On va revenir sur le début de votre collectif. Le 2 décembre 2021, cela fera un an que Morgan Keane a été abattu par un chasseur. Pouvez-vous nous rappeler les conditions dans lesquelles il a été tué et comment vous avez créé le collectif Un jour un chasseur ?
Alors, c'était du coup, comme vous l'avez dit, le 2 décembre 2020, en plein confinement. Donc en décembre, en plein hiver, c'est-à-dire que il fait nuit assez tôt, et c'était vers 17h que Morgan a été tué. Il était en train de couper du bois à 100 mètres de sa maison et était sur son terrain. Et il était en train de couper du bois, il avait un casque avec du orange fluo, il avait une tronçonneuse, donc voilà, il était assez visible quand même. Et il y a un chasseur qui l'a pris pour un sanglier et qui l'a tiré, il lui a tiré dessus en plein thorax. Et il a... Apparemment, il n'est pas décédé sur le coup. Ils ont essayé de le réanimer, mais voilà. Et du coup, on a reçu un appel en début de soirée, enfin 2 heures après ça.
Sachant que son frère était aussi pas très loin.
Il était avec lui. Il l'a entendu. Enfin, il l'a appelé. Il était dans la maison. Il l'a appelé. Il voyait qu'il répondait pas. Il trouvait ça bizarre. Sachant que ça faisait plusieurs heures que les chasseurs étaient dans les alentours. Du coup, il a senti que c'était pas bon signe.
C'était un contexte de battue ou de...
Oui.
Ok. Ils avaient été prévenus qu'il y avait une battue autour de
chez eux ? Non, ils n'avaient pas été prévenus, mais Juan, le frère de Morgan, nous a dit que ça faisait plusieurs heures qu'ils chassaient dans les alentours, donc ils avaient bien vu qu'il y avait une maison à côté, quoi. Donc,
Ça aussi, d'ailleurs, dans ce que vous demandez dans la pétition, il y a cette idée de revoir un peu les règles de chasse et cette idée de respecter les limitations strictes par rapport aux habitations. Et on l'a vu également aussi par rapport aux routes, puisqu'il y a eu encore un drame affreux récemment.
Oui, et tout simplement d'élargir la zone de protection autour des habitations de façon à ce que ce soit égal à la portée des armes, c'est-à-dire pour certaines 2 km quand même. Et là, dans certains cas, c'est 150 mètres, donc c'est rien du tout au final.
En créant le hashtag Un jour un chasseur, vous avez commencé à recueillir de nombreux témoignages d'habitants et d'usagers de la campagne qui commencent leur récit par Un jour un chasseur. Et ensuite, toute une série de témoignages, tous plus hallucinants les uns que les autres. Face à l'ampleur et à la gravité des témoignages, comment votre collectif a réagi ?
On s'est rendu compte qu'il y avait un véritable problème sur la question et que chaque personne n'était pas un cas isolé, en fait. C'est-à-dire que suite à ce drame, forcément, c'était le sujet principal de nos conversations. Et du coup, on s'est rendu compte que même avec des personnes qu'on ne connaissait pas forcément, enfin, qui étaient venues, par exemple, à la marche pour Morgan, juste pour nous soutenir moralement, alors qu'on ne les connaissait pas forcément, même des personnes lambda, du coup... chaque personne avait une anecdote concernant ce sujet-là, donc un comportement abusif lié à la chasse. Et du coup, on s'est dit qu'on allait lancer une boîte mail dans laquelle ils pouvaient nous envoyer leurs témoignages. Et au final, on s'est rendu compte qu'il y en avait énormément, enfin plus que ce qu'on pouvait s'y attendre. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas les publier sur les réseaux sociaux, mais de manière anonyme, parce que là... Il n'y a plus beaucoup de monde qui nous le précise, mais au début, chaque personne, parce qu'ils savent qu'on partage de manière anonyme, mais chaque personne au début nous disait « Oui, excusez-moi, est-ce que vous pouvez éviter de mettre mon nom parce que j'ai peur des représailles, etc. » Du coup, face à ça, on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de dénoncer ça, même si c'est de manière anonyme, pour montrer qu'il y a énormément de témoignages, mais pas forcément que dans Lot et dans tous les coins, aux 4 coins de la France.
Donc là, vous avez réussi à recueillir de nombreux témoignages de toute la France. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns ou peut-être quel type d'abus ou de problèmes les gens rencontrent ?
Alors, on en reçoit déjà à peu près une 20aine par jour, tous réseaux confondus, donc mail, Facebook, Instagram, Twitter. Et on a vu qu'il y avait plusieurs catégories qui revenaient, donc c'était surtout mise en danger de la vie d'autrui, menaces et représailles. Violence sur animaux domestiques, sentiment d'insécurité pendant des promenades, même à quelques mètres de leur maison ou dans des forêts publiques, etc. C'est surtout ce genre de catégorie qui ressort.
Et après, il y a tout ce qui est, là, peut-être c'est encore une autre catégorie, je ne sais pas, c'est tout ce qui est homicide et féminicide dont vous parliez.
Oui.
Alors, Je ne sais pas si ça, vous en avez eu des témoignages en direct ou...
Oui, on en a eu quelques-uns. On en a publié quelques-uns avec le nom des femmes. Et du coup, on a fait des recherches sur les féminicides. Et il y en a quand même une bonne partie qui sont faits par arme à feu. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis une des mesures, donc le suivi et le contrôle des armes, avec des fichiers qui sont censés répertorier et être mis à jour des hommes qui sont pas ou plus aptes à acheter encore et à garder des fusils chez eux, en fait.
On rappelle qu'il y avait cette femme qui a été abattue dans sa voiture par son ex-conjoint, je crois, qui lui avait déjà un passif de violence conjugale. Et là, l'idée, c'est aussi de dire, c'est le suivi psychologique, le contrôle psychologique dont vous parlez également.
C'est ça, il y en a énormément où, en général, l'homme a déjà eu un passé conjugal violent ou psychologique et où l'homme est placé, il est censé être en éloignement de la femme. Je ne sais plus le terme. Enfin, la femme est placée sous protection... Et le mari, enfin son ex-conjoint, n'a plus le droit de l'approcher, en fait. Et il y a eu plusieurs femmes qui étaient dans ce contexte-là. Et malgré ça, le mari a réussi quand même à cambrioler leur maison et aller l'abattre directement.
Avec des armes de chasse.
Avec des armes de chasse, effectivement.
Et alors, ce qu'on entend souvent de la part des chasseurs, c'est qu'on renvoie ces drames, ces abus, etc., au nombre de chasseurs en France, 1,2 million de permis de chasse recensés en 2016, plus exactement. Et il renvoie toujours à dire « oui, mais c'est peu d'accidents par rapport au nombre de gens qui ont le permis de chasse ». Donc comme si on réduisait la gravité de ces drames, mais non pas accidents. Et justement, cette banalisation en utilisant le mot « accident ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, comment vous expliquez, vous, ce sentiment, cette réaction des chasseurs?
Alors, pour nous, accident, c'est quelque chose qui est... Enfin, ça fait placer ce genre de drame dans des faits divers. En fait, ça crée une banalisation de ce genre de drame. Et on ne trouve pas ça normal, parce que, tout simplement, mourir chez soi à 25 ans en train de couper du bois, ou mourir à 67 ans dans sa voiture sur une 4 voies, en plein milieu de nulle part, enfin, c'est pas normal, et c'est d'autant pas normal que ce soit classé dans des faits divers ou des accidents. Ça veut dire qu'on enlève un peu la faute au chasseur, alors que avoir un fusil en main, c'est quand même pas anodin.
Oui, c'est ça. C'est aussi cette idée que la chasse est considérée comme un loisir, voire comme un système de régulation écologique, alors que quand même la France se revendique comme un pays sans armes. Et il n'y a pas de réflexion faite. On a l'impression qu'il n'y a pas de réflexion, et voire un sentiment d'impunité de la part des chasseurs par rapport à leurs actes.
Oui, oui, c'est pour ça. Et surtout quand on voit les peines qu'ils encourent, quand ils ont tiré sur quelqu'un et que cette personne est décédée, c'est souvent du sursis ou un retrait de permis pendant 5 ans ou une amende. On a eu des cas, c'était des amendes de 500 €. Enfin, c'est vraiment très peu. Et ça fait partie, en fait, de ce processus de banaliser ce genre d'événement. Alors que non, c'est pas possible de banaliser ça.
On voit aussi que la Fédération nationale de chasse est en pleine opération de séduction à essayer de capter les jeunes. Alors, je crois que vous insistez aussi là-dessus, sur revoir un peu les conditions d'obtention du permis, puisqu'on peut avoir le permis de chasse, vous m'arrêtez, je crois, à partir de 16 ans.
Oui.
Ils cherchent aussi à aller du côté des femmes. On a vu des campagnes de vidéos sur YouTube complètement hallucinantes. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette manière de communiquer auprès du grand public et aussi sur l'aspect premier écologiste de France?
C'est tout simplement du marketing qui sublime l'image de la chasse, parce que franchement, dans tous les témoignages qu'on reçoit, on n'a absolument pas ce côté-là qui ressort. Déjà, c'est toujours des hommes chasseurs sur lesquels les personnes tombent. Il y a eu plusieurs accidents, accidents entre guillemets, bien sûr, où l'auteur des tirs, c'était un homme âgé. Donc, il n'y avait plus du tout ses capacités de voir ou d'entendre ou ses réflexes comme avant. Enfin, personnellement, moi, je pense que c'est une communication pour redorer l'image de la chasse, parce que depuis quelques années et depuis quelques mois, surtout récemment, y a beaucoup de gens qui rouspètent par rapport aux chasseurs. Donc ils essayent un peu de redorer leur image.
Et il y a cette notion aussi que vous amenez d'usager et d'usagère de la nature. Parce qu'on a le sentiment, quand on habite à la campagne, ou simplement même quand on va se balader ou qu'on est promeneur, que la campagne appartient aux chasseurs, que c'est un domaine de chasse élargi. Et là, vous amenez cette notion, qui est portée par vous et par d'autres, hein, d'usager et d'usagère de la campagne. Qu'est-ce que ça change, à votre avis, dans la manière de...
Tout simplement, un usager de la campagne, c'est quelqu'un... qui va vouloir aller se balader le mercredi avec ses enfants ou en week-end le samedi ou le dimanche à la campagne, ou même tout simplement ceux qui profitent d'habiter tout simplement à la campagne, parce que c'est quand même très agréable, et qui doivent renoncer pour beaucoup de fois à leur promenade ou à leur dimanche après-midi, parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité à cause des coups de feu qu'ils entendent pas très très loin, donc... C'est des usagers de la campagne qui ne peuvent même pas en profiter, donc voilà.
Mais qui sont aussi légitimes que les chasseurs à être là, puisque c'est souvent ce que les chasseurs disent en disant « Oui, mais ils ont la place, ils ont d'autres jours pour être là », sauf qu'en privant les gens du dimanche et du mercredi, de fait, on les prive parfois des seuls jours où ils pourraient en profiter.
Sauf aussi que les chasseurs parlent effectivement de propriétés privées, etc., de parcelles privées, mais en fait, quand ils tirent avec leur fusil, les balles vont pas s'arrêter à la limite de la propriété privée, en fait. Donc, surtout s'ils respectent pas les règles de sécurité, comme on a vu assez dernièrement. Voilà, ça veut rien dire, cet argument.
On va revenir un petit peu sur la pétition. Quelles sont les prochaines échéances de ce travail amorcé avec le Sénat?
Alors hier, on a eu la première nouvelle, comme quoi on était convoqué pour une première audition le 7 décembre à Paris. Donc voilà, c'est ça les dernières nouvelles. Ensuite, on verra bien comment ça se passe. Et comme je le disais tout à l'heure, on espère que les sénateurs seront assez compréhensifs par rapport à nos demandes, parce que pour nous, c'est des demandes très légitimes et très logiques. Donc voilà, on verra bien comment ça se passe.
Prochaine échéance également, c'est la marche blanche que vous organisez à Cajarc.
Oui, du coup, à l'occasion des 1 an de la mort de Morgane, donc qui était le 2 décembre dernier, on va faire une marche le 4, le samedi après-midi à partir de 16h à Cajarc. Voilà, parce qu'on en avait fait l'année dernière, on était très très nombreux, on était 900. Donc c'est histoire de lui faire hommage.
Un hommage également en proposant aux personnes d'afficher une photo de lui et d'allumer une bougie le jour de le 2 décembre.
Oui, le 2 décembre, effectivement. Donc on voudrait lui faire un hommage national, entre guillemets, et un peu illuminer les réseaux sociaux avec ces images de bougies qu'on va partager, repartager. Et voilà, comme ça, tout le monde a une pensée pour lui ce jour-là.
Vous continuez à recueillir les témoignages sur le hashtag Un jour un chasseur?
Oui, et sur nos réseaux sociaux, donc à unjourunchasseur@gmail.com et nos pages de réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter.
Et donc on le rappelle, ces témoignages sont anonymes, me permettent de comprendre un moment le côté systémique de ce phénomène. Et donc n'hésitez pas à témoigner sur Un jour un chasseur. Et on suivra évidemment l'évolution de cette commission des lois de contrôle avec vous. Merci beaucoup Zoé.
Merci à vous.
Cette interview a été réalisée par Alexandra Joss pour Média Commun Occitanie. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez toutes nos émissions et podcasts sur ondescourtes.org, la web radio du libre.